Chapitre 12. Hors la loi. Et le lendemain, assis tous deux sur leur balcon, caressés par une brise matinale, Marcel continuait son récit à Lucien. Quelques mois après ma naissance, ma mère se rendit près d'un vieil oncle, quinteux et grondeur, pour lui donner ses soins. Cet oncle habitait la campagne. Il s'était fait construire dans un lieu sain, élevé, et lui offrant toutes les chances de longévité désirables, une maison blanche à toit abaissé, à volets verts, assise confortablement au soleil, et ayant dans tout elle un air de bonhomie égoïstique. Rusé, perspicace, essentiellement conservateur comme tous les égoïstes, matérialiste comme les trois quarts des médecins, ce vieux parent dépensait toute son intelligence à l'entretien et à l'agrandissement de son bien-être, peu soucieux pour l'augmenter, d'empiéter sur celui des autres. D'une santé délabrée par des excès de table, il était entouré de livres de médecine qu'il consultait sans cesse. Il essayait de tous les systèmes connus, de toutes les inventions nouvelles, de tous les charlatanismes possibles. Il s'appliquait les nombreuses médications mirifiquement annoncées à la quatrième page des journaux. Il entretenait une correspondance active avec les médecins les plus célèbres, n'ayant garde de ne point les appeler ses chers confrères, et même de leur prouver qu'ils avaient fait leurs cours ensemble pour avoir leurs consultations gratis. S'il dépensait beaucoup pour lui-même, en revanche, il était d'une avarice sordide pour les autres, avarice qu'il colorait habilement d'ordre, d'économie, de bonne gestion. Ayant du savoir-dire aussi bien que du savoir-faire, il débitait sans cesse de longues tirades sur la lèpre de l'égoïsme, le vil intérêt. Il se posait en victime de son grand cœur et prétendait, comme tous les égoïstes, n'avoir jamais obligé que des ingrats. Quelque blessants que fussent les angles de sa personnalité, il avait l'art de flatter le faible de chacun, et souvent on se trouvait entraîné comme malgré soi à lui rendre service. On ne l'aimait pas, mais on redoutait sa moquerie, on éprouvait une espèce d'orgueil de ses éloges, d'autant plus qu'il les mesurait à dose homéopathique et on le laissait s'imposer. Sa grande taille, son front chauve, son air magistral, ses sourcils touffus, ses petits yeux gris investigateurs qui, tout en interrogeant, déjouaient le regard, son long nez, son rire rabelaisien formaient un ensemble qui ne manquait ni d'originalité, ni d'une certaine bonhomie de paysan madré. Dans un autre milieu, cet homme aurait pu être un grand diplomate. Il était veuf depuis quelques années d'une femme simple de cœur et d'esprit dont il avait fait sa servante bien plus que sa compagne et qui, dans sa simplesse, annihilée par son despotisme, lui avait laissé sa fortune au détriment de ses héritiers directs. Il vivait seul avec deux domestiques auxquels il promettait sans cesse, pour encourager leur zèle, de nombreuses largesses sur son testament. Mais la société d'une servante devient fastidieuse à la longue. Décembre et fondre les chemins, on ne voit personne, les soirs d'hiver sont longs à passer, la lecture du journal ne récrée pas toujours, et un pot de causerie après le dîner aide à la digestion. Toutes ces considérations prises, il appela ma mère près de lui pour en faire sa femme de charge, sa lectrice, sa garde-malade. Il la tyrannisa sans vergogne, sous prétexte qu'étant un oncle à succession, la tyrannie lui était permise. Plus le cœur est à l'étroit dans la vie, plus il se perd dans la nature. Aussi ma mère éprouvait-elle un immense bien-être quand elle se promenait seule, à la fin du jour, dans les sentiers perdus qui côtoyaient la maison. Elle s'inondait de toutes les poésies du soir, et son âme attendrie rêvait, aimait encore, aimait la petite enfant qui, l'appelant d'un cri joyeux, lui promettait les saintes joies de la maternité. Et elle remerciait Dieu de suspendre l'espérance comme une goutte de rosée au rameau dénudé de sa vie. Hélas, sait-on jamais si cette goutte de rosée qui tremble est une larme ou un diamant ? Et, toute pâlie, Marcel regarda Lucien comme pour lui demander s'il n'y avait point aussi des larmes dans leur bonheur. Lucien la rassura en la serrant sur son cœur. Marcel reprit. Quelque effort que fit l'oncle de ma mère pour se cramponner à sa vieillesse, il lui fallut pourtant mourir. Il joua la comédie jusqu'au bout, et quand il sentit que le dernier mot de sa vie allait se dire, Il demanda le curé de son village pour qu'il fît, disait-il, son métier de prêtre. Et tandis que le pauvre curé se glorifiait d'avoir amené une brebis égarée au bercail catholique, l'âme fuyante du vieux sceptique riait sans doute d'un rire inextinguible en songeant aux dupes qu'elle avait faites. Puis, selon l'usage, cette maison discrètement fermée, dans tout le désordre d'un dernier adieu, s'ouvrit avec fracas au juge de paix qui vint poser les scellés, au notaire qui vint procéder à l'inventaire, aux héritiers, avides, mécontents, toujours frustrés plus ou moins dans leurs espérances, au commissaire priseur qui chiffre toutes choses, et les mystères et les misères de cette vie qui ne peut plus se voiler sont exposés au regard de tous. Les lettres enfouies dans un tiroir secret, les saintes reliques sur lesquelles peut-être ont coulé bien des larmes, sont éparpillées, inscrites à l'inventaire. Un clerc en fait des gorges chaudes, chacun plaisante, dit son mot, ridiculise le pauvre mort. Puis la foule sale, puante, grouillante des marchands, envahit la maison, met la main sur toute chose. N'y a-t-il pas dans tout cela une espèce d'impudeur? La loi le veut ainsi, prétend-on. L'avidité humaine n'est-elle pas là? Reprit Lucien. N'était-ce pas elle qui préside à ces ignominies de l'héritage? Eh bien, que trouva-t-on chez le vieil oncle? Nulle relique, peu de lettres d'amour, une volumineuse et prosaïque correspondance ne traitant que de ses infirmités et des moyens de les guérir, puis un testament qui instituait ma mère, ainsi qu'une autre parente, ses légataires universelles, à charge de payer ses dettes, dont le chiffre dépassait de beaucoup celui de sa succession. Il avait d'ailleurs placé les trois quarts de sa fortune à rente viagère, sans qu'on en sût rien. Cette succession n'était qu'un grelot qu'il avait fait sonner bien haut à l'oreille de ses héritiers et de tous les gens dont il avait eu besoin. Grande fut la déception, non de ma mère, mais de sa co-héritière, demoiselle à marier, jeune et pimpante beauté de province, qui, depuis longtemps, supputait dans sa pensée tous les prétendants qu'elle attirerait avec les deniers de la succession. Quelque abandonné qu'on soit, on rencontre toujours un être protecteur, entraîné vers vous par de certaines affinités morales. Tel était un ami de ma mère, le seul qui lui fût resté des nombreux amis de son mari. Il occupait une position honorable dans une ville voisine, et il lui avait déjà prêté son appui en diverses circonstances. Cette fois encore, il lui vint en aide. C'était une nature positive, réfléchie, équilibrée, où cœur, esprit, sens sont toujours à la même place. Passionné pour la justice, il n'avait vraiment que cette passion-là. Il se traçait en toute chose une ligne de conduite invariable et ne faisait rien sans une conviction profonde. Honnête par instinct, par amour de la rectitude, il considérait un service à rendre comme un devoir et n'y manquait jamais. C'était une intelligence à mi-côte entre les ombres du terre-à-terre et les rayonnements des hautes cimes. Pas assez tumultueuse ou assez lumineuse pour être révolutionnaire, sans les luxuriances de la pensée hardie et les stérilités des esprits sans pensée, sachant bien ce qu'elle savait, voyant bien ce qu'elle voyait, n'allant jamais au-delà du connu, professant un culte religieux pour ce qui est, et ne se demandant point ce qui sera. M. de Lamarre était l'un de ces hommes qu'on estime avant de les aimer et qu'on aime parce qu'on les estime, qui attachent plutôt qu'ils n'entraînent. Je le vois encore avec sa taille un peu grêle, sa tête carrée, son teint pâle, ses yeux bruns, doux et reposés, ses mouvements toujours mesurés, sa parole toujours tranquille mais nettement articulée, et décelant la régularité de sa vie dans la symétrique régularité de son costume. M. de Lamarre aida ma mère à sortir par le chemin le plus droit et pour l'heure le plus court du dédale embrouillé d'une succession où, quand bien même on n'hérite pas, il y a toujours succession de charges. Il approuva son projet d'acheter la maison de son oncle et de s'y installer avec la vieille servante, frustrée aussi dans ses espérances. Séjour fort triste pour une femme encore jeune, mais dont cette nature tranquille ne voyait que la régularité, le convenu social, le calme apparent, sans comprendre les souffrances inavouées de la solitude, sans deviner les sensations douloureuses que font éprouver à la femme toutes ces tendresses sans nom, sans objet, qui lui montent à la surface du cœur. Quel que fût le vide de son existence, ma mère, moins malheureuse que certaines femmes, avait un petit être à aimer. Un enfant ne satisfait pas toutes les aspirations de l'âme, mais il calme, il console, mais il fait rêver le cœur. Quand le va-et-vient des hommes d'affaires eut cessé, sans souci du qu'en dira-t-on, ma mère me fit venir près d'elle. J'avais 2 ans alors, et je me réchauffais sous ses baisers, et je m'épanouis sous son sourire, et je grandis dans ce doux nid, fortifié par l'air pur des champs, vivant et comprenant le bien-être de vivre dans une atmosphère de liberté morale et physique, me sentant aimé et ne désirant rien au-delà, car c'est presque toujours la soif du cœur qui rend l'esprit insatiable. Quelle volupté chaste s'épandait en moi quand ma mère me tenait dans ses bras, me pressait sur son sein, me couvait de son doux regard. Que d'émotions se pressaient dans mon petit cœur qui battait tout près du sien. On ne sait pas toutes les ivresses de ces saintes amours. Je me soumettais à ma mère par tendresse et non par crainte. J'avais peut-être certaines inégalités de surface qu'on appelle défauts d'enfant gâté, mais j'avais aussi les tendresses, les exubérances et les primesauts d'un cœur libre. J'apprenais à sentir avant que d'apprendre à raisonner, et le raisonnement, n'étant chez moi que l'analyse de la sensation, ne me causait aucune fatigue. Aiguillonné par la curiosité du savoir, j'étudiais presque sans m'en douter. Comme la digitale des montagnes, je me développais, pleine de sève, en dehors de l'éducation conventionnelle et artificielle qu'on donne aux femmes, éducation qui a toutes les froidures, les aridités, les étroitesses du pot de fleurs sur la fenêtre, ou les étiolements de la serre chaude, éducation qui, sous prétexte de les former, déforme tant de choses en elles. J'ignorais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire, ce qu'il faut laisser deviner, mais j'étais chaste parce que j'étais vraie et que j'avais l'instinct du devoir. Dans mes longues promenades avec ma mère, j'apprenais à comprendre la nature, j'aspirais ses poésies avec tous ses parfums, je me sentais emporté par toutes ses brises, agrandi par ses vastes horizons, et au retour de ces promenades, toutes deux nous revenions meilleures, l'esprit plus large et le cœur plus tendre. La position fausse de ma mère, et d'ailleurs son peu de sympathie pour les habitants de la ville voisine de sa demeure, nous isolait à la campagne. Mais M. de Lamarre venait souvent nous voir, et sa visite était une fête pour toutes deux. J'avais pour lui une affection filiale. Cependant, tout enfant que j'étais, je sentais instinctivement que j'étais entre ma mère et lui un sujet de malaise vague, inavoué. J'étais un fait accompli sur lequel il était inutile de revenir. Ma mère n'avait pas osé d'abord lui révéler les circonstances de ma naissance, puis elle n'osait plus parce qu'elle n'avait pas osé. Monsieur de Lamarre, s'enfermant dans une discrétion exagérée peut-être, ne la questionnait jamais sur un secret qu'elle lui taisait. Elle était sûre de son indulgence, mais elle savait aussi qu'avec ses idées radicales, sa nature calme, maîtresse d'elle-même, il ne comprendrait pas l'entraînement d'un instant qu'elle avait éprouvé. Une femme a toujours le courage d'avouer l'homme qu'elle aime, parce que son cœur est envahi par l'orgueil de l'amour. Mais il doit être profondément humiliant pour elle de dire « J'ai cédé à un homme sans l'aimer, je l'ai subi, je ne me suis pas donné. » Et sa dignité et son moi d'être libre se révoltent et la condamnent. A-t-il aimé ma mère, ce bon monsieur de Lamarre? Je le crois, mais je crois aussi qu'il ne s'en est pas douté. Entre un homme et une femme, quelque tranquille que soit le rapport, il est toujours des heures où l'amitié s'appelle de l'amour. Mais comme c'est rarement aux mêmes heures qu'ils s'aiment d'amour, l'habitude de l'amitié l'emporte dans leur cœur. J'avais 15 ans. Rien ne semblait changer dans notre existence d'apparence si placide. Mais les solitudes de notre vie se peuplaient alors pour moi de tous les charmants lutins qu'une jeune fille entend chanter dans le souffle alangué du soir, qu'elle croit voir dormir dans le pétale replié d'une fleur, dont elle entend frémir les baisers dans les bruits vagues et doux d'une nuit d'été, molécules d'amour qui se détachent de l'âme universelle et que la jeunesse s'assimile par toutes ses facultés morales et physiques. Je vivais trop intimement avec ma mère pour qu'elle ne s'aperçût pas de la transformation qui se faisait en moi, et je n'osais lui en faire la confidence. J'avais honte de ce trouble étrange, je m'isolais d'elle, je me promenais à l'écart pour plonger ma pensée dans ces voluptés nouvelles qui s'emparaient de mon être. Me cherchait-elle au détour d'une allée? Je m'enfonçais plus avant sous les arbres, puis, confuse, rougissante, je revenais vers elle, je l'enlaçais de mes deux bras et, sans lui rien dire, je pleurais sur son sein. Elle aussi pleurait, ma douce mère. Elle souffrait du prochain partage de mon affection et, passant sa main sur mes cheveux, essuyant mes larmes avec ses baisers, elle murmurait « Pauvre enfant, tu laisseras surprendre ton cœur, toi aussi. Tu souffriras, tu regretteras peut-être, et je ne serai plus là pour te sauvegarder ou pour te consoler. Que faire, mon Dieu, que faire ?» Sa tête s'inclinait sur sa poitrine, et elle songeait. Depuis quelque temps, sa santé s'altérait. Elle avait des suffocations, des spasmes. Elle était atteinte d'une maladie de cœur. C'est une maladie si longue parfois qu'elle ne me causait point de crainte immédiate. Elle nous parlait peu de sa santé, mais elle était envahie par ses tristesses vagues et ses langueurs d'âme qui sont toujours l'indice d'une désorganisation physique. Un jour que notre amie était venue la voir et qu'il la regardait avec inquiétude, elle lui dit « Si je mourais, vous voudriez bien, n'est-ce pas, être mon exécuteur testamentaire, et vous prendriez ma fille sous votre protection ?»« Pauvre cher ami, lui répondit-il, disposez de moi, vous savez bien que je vous suis tout dévoué. » »« Et vous les exécuteriez ponctuellement, ces volontés dernières ?»« Évidemment, à moins qu'elles ne fussent en désaccord avec la loi. » »« Je suis plus tranquille alors, reprit-elle en lui serrant les deux mains. « Cher ami, c'est vous qui m'avez aidé à vivre et vous m'aiderez aussi à mourir. » Ma présence interrompit leur causerie. M. Delamarre était pâle et une larme roulait dans ses yeux. Pendant 2 jours, ma mère s'enferma pour écrire et pendant ces 2 jours, elle pleura beaucoup. Sa santé subit plusieurs alternatives de mieux, de plus mal. Par moments, j'espérais, avec les vives espérances de la jeunesse, qui croit toujours ce qu'elle désire réalisable. Je sentais ma vie attachée à la sienne par des liens si intimes qu'il me semblait impossible qu'elle pût mourir. Mais la vieille Ursule faisait tomber mes illusions en s'écriant « Ah, ma pauvre chère demoiselle, qu'est-ce donc que nous allons devenir? Le docteur n'augure rien de bon de tout cela. » Je revenais un soir du jardin où j'avais été cueillir à ma mère un bouquet d'héliotropes et de roses. Il avait fait de l'orage et les fleurs qui pleuraient encore avaient un parfum sympathique à la souffrance. J'entrai dans sa chambre et la trouvai affaissée dans son fauteuil près de la fenêtre ouverte. En la voyant si pâle et si alanguie, des larmes me montèrent aux yeux. Les derniers râlements de la foudre secouaient encore les arbres. Le ciel enfiévré était marbré de taches rouges. La chauve-souris étendait ses ailes funèbres et le crapaud entonnait sa lugubre psalmodie. Toutes deux attristées, nous écoutions en silence. « Hélas, me dit ma mère, c'est peut-être mon chant de mort que chante aujourd'hui la nature. » Et comme je me prenais à sangloter en laissant tomber ma tête sur ses genoux, « Je t'afflige, pauvre chérie, me dit-elle. » Mais un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas tous en venir là? La mort n'est triste que parce que ceux qui s'en vont, comme ceux qui restent, ne songent pas assez à cet inévitable départ. Et puis, l'on ne sait pas si dans ce long sommeil, il y a des rêves où l'on se voit, où l'on se retrouve, où l'on s'aime encore. Ce qui m'effraie et me rend triste, c'est de te laisser toute jeune, sans appui, sans expérience, exposée à 1000 périls que tu ne soupçonnes pas, et dont je ne me suis pas sauvegardée moi-même. Écoute, ma chère fille, je vais te raconter ma vie, il en est temps. J'ai hésité jusqu'à ce jour. » Elle s'arrêta quelques secondes, oppressée, puis elle reprit « Rien ne nous instruit comme les fautes de ceux qui nous sont chers. Pour nous, c'est de l'histoire. Les récits recueillis ça et là dans la foule nous semblent toujours une fiction. » et elle me raconta les misères et les tristesses de ma naissance. Et quand elle eut fini, « Aimes-tu encore ta mère, quelque tombée qu'elle puisse te sembler ?» me dit-elle en me regardant avec ses yeux tendres et inquiets. « Oh oui !» m'écriai-je en l'entourant de mes deux bras, en la couvrant de mes baisers et de mes larmes. « Je t'aime plus encore, peut-être, car tu as bien souffert. » « Oui, j'ai souffert, mais pas depuis que tu es près de moi, pas depuis que je reflète tout mon cœur dans tes yeux. Tu m'as fait passer d'ineffables heures, ma chère fille. On a beau dire, il y a toujours du miel à extraire d'une douleur. » Minuit sonna. Nous causions dans l'ombre, une main dans la main. Causerie entrecoupée de larmes, de baisers, comme celle des amoureux à leur premier amour. Et ma pauvre mère ne descendait plus au jardin. « Marcel, me dit-elle un jour, je sens que je m'en vais. Ton avenir me préoccupe vivement. Je crains, cher enfant, quel que soit mon exemple, que tu ne te laisses entraîner comme je l'ai été, sinon par tes sens, du moins par ton cœur. Je crains que seul, sans appui, presque sans fortune, marqué au front de la tache indélébile d'une naissance non sanctionnée par le mariage, repoussé par la société qui devrait te protéger et non te honnir, entraînée par les mirages d'une âme tendre, tu ne deviennes la proie de l'un de ces hommes qui convoitent le corps d'une femme sans désirer son cœur, puis la laissent là après l'avoir flétrie et sans l'avoir aimée. Ils se disent « Elle pleure, mais que nous importe ? Elle se consolera avec un autre. » La position de notre ami l'empêche de te prendre chez lui. S'il te plaçait grande pensionnaire dans un couvent, le danger ne serait conjuré qu'en apparence. Et là, tu attendrais bien longtemps, peut-être, dans les habitudes d'une vie étroite et mesquine, qu'un monsieur qui te connaîtrait à peine voulût bien consentir à t'épouser, et tu te marierais par ennui, et tu quitterais un cloître pour entrer dans un autre cloître, tout aussi étroit, tout aussi étouffant que le premier, la vie conjugale, sans amour, dans un pâle milieu de province. J'ai donc songé à te faire adopter une autre existence. Elle est étrange, elle t'effraiera sans doute. Elle ne satisfait qu'imparfaitement mes désirs de mère. J'y pressens aussi pour toi, pauvre enfant, bien des isolements, bien des langueurs, mais elle te sauvegardera des périls que je t'ai signalés, mais elle te donnera l'indépendance, et si ton cœur souffre, il pourra du moins se distraire et comme respirer par l'esprit. Ce qui perd les femmes, c'est que presque toujours, leur vie n'ayant pas de but, elles l'abandonnent aux rêveries mauvaises de l'oisiveté. « Qu'est-ce donc, chère mère ? » repris-je, curieuse et inquiète. « Eh bien, quand je ne serai plus, crois-moi, revêt des habits d'homme. Tu es grande, élancée, personne ne soupçonnera le travestissement. Par mon testament, j'exprime le même désir. Je te recommande à notre ami, il te cherchera à Paris un emploi quelconque. Nous vivons ici fort retirés, et puis, perdu que tu seras dans le grand tourbillon parisien, il te sera facile de permuter de sexe et de garder le secret de ton incognito. Je ne me dissimule pas que les commencements de ton stage masculin seront pénibles. Tu ne connais pas la vie, tu ne connais pas le monde, tu ne sais rien, peut-être, de ce qu'il te faudra savoir. Mais tu étudieras, tu travailleras. Je suis persuadée que, dégagée des entraves dont on entoure les femmes, ton intelligence et ta volonté se fortifieront comme le corps se fortifie par l'exercice au grand air. Je me jetai dans ses bras, je pleurai longtemps sur sa poitrine haletante, je lui promis tout. « Merci, ma fille, me dit-elle, je mourrai plus tranquille. » Et elle m'enveloppa du long et pénétrant regard des mourants. À quelques jours de là, étendue dans un fauteuil, soutenue par ses oreillers, ma pauvre mère aspirait avec effort un peu de vie que lui apportait la brise. Elle eut un hoquet, ses mains se crispèrent sur les miennes, puis elles se détendirent. Je me penchai pour écouter son souffle. Elle était morte. La vieille Ursule accourut au cri que je poussais et mêla ses sanglots aux miens. Et toutes les deux, penchées sur ce cher cadavre, nous suivions de seconde en seconde les terribles envahissements de la mort. Nous cherchions encore un semblant de souffle au bord de ses lèvres blanches, nous tâchions de retenir, sous la pression de nos mains brûlantes, un peu de chaleur dans ses mains refroidies. Puis nous coupâmes ses longs cheveux, nous lavâmes son doux visage, nous fermâmes ses paupières entr'ouvertes. » Là, Marcel s'arrêta, toute secouée par les larmes. Lucien la laissa pleurer sans rien dire. Dans ces moments-là, les paroles, quelque douces qu'elles soient, choquent toujours comme une note fausse. Marcel reprit. « J'écrivis à M. Delamarre, mais il ne pouvait arriver que le lendemain matin. Oh, douloureuse fut-elle, cette nuit de lourd silence, d'ombre lugubre, de parfums funèbres, de froid morbide, de bruits sourds, plaintifs, inconnus, vagissant au dehors. Bruits qui se faisaient entendre toutes les nuits, sans doute, mais auxquels notre oreille hallucinée prêtait des notes étranges. » Le lendemain matin, M. Delamarre arriva. Sa tenue était aussi irréprochable que d'habitude, le nœud de sa cravate blanche était fait avec la même symétrie, sa parole était toujours mesurée. Seulement, la pâleur de son visage avait une teinte livide qui ne lui était pas ordinaire. Je ne sais pourquoi, dans les moments d'hébétement moral, d'absorption de tout l'être dans une grande douleur, ces futiles détails frappent plus qu'en tout autre temps et attirent l'œil d'une façon machinale. On veut s'en distraire et l'on y revient comme malgré soi. M. Delamarre remonta dans la chambre de ma mère et, les bras croisés au pied du lit, il contempla cet immobile visage contracté par la mort. Soudain, une lueur phosphorescente passa dans ses yeux, si calme d'ordinaire. Un amour non soupçonné lui monta du cœur et s'épandit dans son regard, qui reprit, au bout de quelques secondes, sa placide expression habituelle. Cette flamme n'avait été qu'un éclair, mais elle l'avait illuminé tout entier. Puis il s'occupa des tristes devoirs à remplir pour se conformer à l'usage. Et quand la triste cérémonie fut terminée, quand la dernière pelletée de terre eut roulé sur le cercueil et qu'Ursule et moi nous nous retrouvâmes seuls dans cette maison, la veille encore toute remplie d'elle, nous nous regardions sans nous rien dire. Les murs nous semblaient avoir la sonorité du vide, et cette sonorité nous faisait peur. Elle, par habitude, rangée, époussetée. Moi, je restais assise, l'œil fixe, les bras croisés sur la poitrine, me figurant que je ne pensais pas, parce que j'étais envahie par une pensée unique. Cette pensée, elle avait pris des proportions colossales, elle gonflait mon cœur, elle distendait mon cerveau. C'était une hydre, elle repoussait par tout moi. Quelles qu'eussent été les instances de M. Delamarre pour m'éloigner de ces tristes lieux, j'étais restée. J'aimais à retrouver ces traces si douces que ma chère mère avait laissées partout et qui me faisaient croire par instant qu'elle n'était pas morte, qu'elle allait revenir me donner le baiser du soir. J'aimais à m'entourer de tous les objets qui lui avaient appartenu et qui étaient comme imprégnés de sa vie. Enfin, M. Delamarre prit connaissance du testament de ma mère, et grande fut sa surprise, son épouvante même. Le désir qu'elle exprimait que je revêtisse des habits d'homme, que je vécusse de la vie active d'un homme, renversait toutes ses idées d'économie sociale, d'ordre moral, habitudes établies, et, d'un autre côté, il ne se dissimulait pas le faux de ma position. Il sentait bien qu'il lui était impossible de me prendre chez lui. Il se tranquillisa un peu quand je lui dis que ma mère m'avait consulté avant de formuler cette clause de son testament et que je n'éprouverais nulle répugnance à me conformer à sa volonté. Puis il s'occupa de la régularisation de ma fortune, qui se trouva bien mince. Il m'acheta pour lui-même la propriété de ma mère, et certes les avantages ne furent pas de son côté. Il n'en laissa rien voir. Il y a dans la façon d'obliger une discrétion, une pudeur même, comprise seulement des natures délicates. Nombre de gens, quand ils rendent un service, le rendent avec tant de lourdeur et d'ostentation qu'ils écrasent toujours un peu le cœur de ceux qu'ils prétendent servir. C'est peut-être pour cela que la reconnaissance est si rare. « Repose-toi, dit Lucien à Marcel, ces douloureux souvenirs t'ont vivement secoué. L'air est doux, les oiseaux chantent, nous allons sortir. » « Je resterai, tu travailleras, » reprit-elle en souriant. « Non, pas aujourd'hui, le temps est si beau et je suis si bien avec toi. » « Nous nous retrouverons tantôt. » Et, dardant sur Lucien son œil aux ondes profondes, « Crois-tu donc qu'une femme n'aime un homme que pour ses baisers ? Elle l'aime parce qu'elle le rêve toujours plus grand que nature, parce qu'elle verse dans sa vie à lui toutes les ambitions de son âme comprimée. Elle l'aime parce qu'elle se sent grandir près de lui, avec lui. Si l'amour a des ailes, c'est pour s'élancer d'un bond hardi vers les belles et nobles choses, c'est pour aller à deux, respirer dans une pure et saine atmosphère. On disait, il y a quelque temps, Lucien Adjer a du talent. Je veux maintenant qu'on dise, Lucien a du génie. Parce qu'il aime, il est aimé d'une femme qui sait le comprendre. Oh oui, reprit Lucien ému, sois mon inspiratrice, sois la force de mon cœur et la poésie de ma pensée. N'est-ce pas la véritable mission de la femme ? Reprit Marcel en enveloppant Lucien d'un radieux sourire.